le magazine des Nations Unies.
Épidémie d'Ebola à Nambwa dans le Bas-Uélé, l'OMS appelle à ne pas céder à la panique. Une première mission mixte d'évaluation a été sur place cette semaine. Un plan de réponse évalué à 14 millions de dollars américains a été mis en place. Les détails dans cette édition. La MONUSCO continue d'accorder son soutien et sa protection au docteur Mukwege et à son hôpital de Parsi. Le porte-parole de la mission onusienne l'a encore martelé au cours de la conférence de presse de mercredi dernier à Kinshasa. Enfin, les réfugiés rwandais qui ne seront pas rapatriés au 31 décembre 2017 garderont leur statut de réfugiés sur le sol congolais, selon un expert du ACR. Combien sont-ils les réfugiés rwandais en RDC? Combien ont-ils été rapatriés? Et combien il en reste? Réponse avec Olivier Guillaume Baird, il est représentant régional assistant du ACR. Il sera notre invité.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue sur la radio de la paix. Nous le disions, le ministre de la Santé publique, le docteur Oli Ilunga Kalenga et le représentant de l'OMS en RDC, le docteur Alarangar Yokuide, ont effectué du 17 au 18 mai 2017 une mission d'évaluation de l'épidémie d'Ebola à Nambwa, cette localité de la zone de santé de Likasi dans la province du Bas-Uélé est l'épicentre de la maladie. Mais pour l'OMS, il n'y a pas à paniquer. Honoré Missenga Kalala.
C'est à l'issue de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier que le docteur Valentin Mukinda Kapalanga, épidémiologiste en charge des urgences à l'OMS-RDC, a lancé cet appel d'apaisement et annoncé l'installation incessamment d'un centre de traitement d'Ebola par Médecins Sans Frontières, Dr Mukinda.
Il y a une section de Médecins Sans Frontières qui s'apprête à installer un centre de traitement d'Ebola dans l'épicentre de cette épidémie. Médecins Sans Frontières est l'une des organisations qui est mieux spécialisée dans la prise en charge médicale des malades touchés par ce virus Ebola. Le message de l'OMS, c'est que la RDC est à son 8e épisode d'une épidémie de la maladie virus Ebola. L'expérience l'a montré que nous l'avons toujours bien maîtrisé en RDC et donc il ne faut pas céder à la panique. Il faut très bien suivre les conseils donnés par les autorités sanitaires en matière de prévention et d'application de l'hygiène individuelle collective pour ne pas contacter cette maladie.
Dans la foulée, l'expert de l'OMS donne aussi l'état des lieux de la situation épidémiologique de cette maladie jusqu'au 16 mai 2017.
Comme l'a déclaré le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, le 12 mai 2017, la RDC a déclaré officiellement une épidémie de la maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Ikati, territoire d'Aketi, province de Bas-Uélé. Ces cas ont été confirmé cliniquement et biologiquement par notre laboratoire national BNRV. Actuellement, nous parlons de 21 cas suspects sur le plan clinique et 2 cas confirmés biologiquement par le laboratoire BNRV. De ces 21 cas suspects, il y a déjà 3 décès.
Pendant ce temps, dans la quête de la réponse à cette épidémie dans la province du Bas-Uélé, le ministre de la Santé publique, le docteur Oli Ilunga Kalenga, effectuait le même jour une mission mixte d'évaluation sur place. Dans sa suite, le représentant de l'OMS-RDC, le docteur Alarangar Yokuide, et le représentant AI de l'UNICEF, le docteur Tajudayen Oye Wale. Un communiqué de presse conjoint ministère de la Santé, OMS, UNICEF, daté du 18 mai, a sanctionné cette mission d'évaluation. Ce communiqué fait notamment état de la mise en place d'un plan de réponse évalué à 14 millions de dollars américains. Une réponse à cette volée et pour laquelle cette commission technique sera mise en place, dont les commissions de surveillance et investigation, de prise en charge médicale ainsi que de prise en charge psychologique.
De la santé à la sécurité, autre grande nouvelle de la semaine, la MONUSCO, toujours préoccupée par la situation sécuritaire du docteur Denis Mukwege et de son hôpital de Panzi. En tout cas, la mission onusienne en RDC affirme continuer à accorder son appui et sa protection au gynécologue de Bukavu et à son centre hospitalier. Les détails, encore avec vous, Honoré Missenga Kalala.
Charles-Antoine Bambara, directeur de l'information publique et porte-parole de la MONUSCO, y est revenu encore après avoir évoqué la situation une semaine plus tôt. Pour la MONUSCO, a-t-il notamment laissé entendre, il existe des raisons sérieuses de continuer le soutien et la protection du docteur Mukwege. Charles Bambara.
La MONUSCO continue d'apporter son soutien parce qu'elle estime qu'il existe une menace crédible contre le docteur Mukwege sur la base des préoccupations exprimées par la fondation Panzi. Depuis donc le 15 mai, la MONUSCO a déployé de manière préventive du personnel en uniforme à l'hôpital Panzi. Pour une protection, je dis bien 24 heures sur 24, et on augmentera également le nombre de patrouilles dans cette zone de Panzi jusqu'à ce que l'évaluation sécuritaire que nous avons demandée, une fois que c'est terminé, nous allons donc voir si cette protection permanente 24 heures sur 24 est nécessaire sur le long terme, elle sera maintenue. S'il faut la revoir ou l'ajuster, nous l'ajusterons. Mais pour le moment, depuis le 15 mai, la protection permanente de l'hôpital Panzi est assurée par la MONUSCO.
Cette protection permanente de l'hôpital de Panzi concerne également les données confidentielles de ces centres hospitaliers, a ajouté le porte-parole de la MONUSCO.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La République démocratique du Congo s'est engagée dans le processus de la réforme de l'aménagement du territoire. Un atelier s'est tenu à Kinshasa du 15 au 16 mai dernier, avec pour objectif de dégager la manière dont cette réforme sera abordée et surtout mobiliser les parties prenantes. Le gouvernement congolais a choisi le PNUD de l'accompagner dans ce programme. L'un des consultants de cette agence onusienne en tant qu'expert en aménagement du territoire, Monsieur Ouidi Taïeb, a pris part à cet atelier. Il répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Monsieur Ouidi Taïeb, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un expert en aménagement du territoire. Vous allez participer, bien sûr, comme consultant du PNUD, au processus de la réforme de l'aménagement du territoire en RDC qui vient d'être lancé. D'une manière simpliste, qu'est-ce qu'on entend par aménagement du territoire pour le commun des mortels?
Alors, l'aménagement du territoire, pour simplifier, c'est une discipline qui est transversale, c'est-à-dire qui traverse l'ensemble des départements techniques sectoriels que sont l'éducation, la santé, les infrastructures, etc., et qui essaye de mettre dans l'espace ou de poser dans le territoire les décisions en matière socio-économique. Un exemple, quand on dit qu'on va faire un programme d'infrastructures routières, l'aménagement du territoire est là pour dire quelles sont les priorités en matière routière pour les mettre ici plutôt que là. Voilà, grosso modo, ce qu'est l'aménagement du territoire. Reste une chose, c'est que l'aménagement du territoire, évidemment, est fait pour l'homme. Il est fait pour que l'homme soit le mieux dans son environnement. Et donc, l'aménagement du territoire s'intéresse aussi à l'habitat, aux conditions de vie, à la résorption de la pauvreté, etc.
Bon, voilà. Pour nous résumer, un bon aménagement du territoire implique quoi, en résumé?
Écoutez, je ne voudrais pas aborder la question sur le plan technique, parce qu'il y a des techniques qui sont très adéquates, si vous voulez, pour faire l'aménagement. Mais je pense qu'un bon aménagement du territoire implique d'abord que l'État fasse son travail. Là où l'État fait son travail, il n'y a aucune contestation, aucun soulèvement, etc. Qu'est-ce que le travail de l'État? Le travail de l'État, c'est de faire de l'infrastructure, d'améliorer les conditions de vie des populations, c'est de faciliter l'économie, c'est de faire en sorte que l'environnement soit préservé, et encore une fois, là où il le fait, il n'y a pas de problème.
La RDC s'engage dans la réforme de l'aménagement de son territoire. La problématique est laquelle pour la RDC, puisque vous allez être associé à ce travail?
Écoutez, moi je pense qu'il y a une question préalable. C'est la suivante. Que veulent faire les Congolais de leur richesse? Et à mon avis, la réponse à cette question donne déjà beaucoup d'indications sur la suite. Je donne un exemple là aussi. Est-ce que les Congolais veulent utiliser leurs forêts dans des brûlis ou est-ce qu'ils veulent utiliser une partie de la forêt dans des activités qui puissent avoir une valeur ajoutée plus importante? Le brûlis, je dirais, c'est presque un blasphème. C'est-à-dire que prendre une part de la forêt pour la réduire à zéro, même si c'est une part. En revanche, utiliser la forêt pour des activités de type transformation de bois, de meubles, transformation pour l'artisanat, etc. Et j'insiste aussi d'ailleurs sur le fait qu'il faut en utiliser une petite partie. Ça, me semble-t-il, c'est une question qu'il faut se poser. C'est pareil pour les ressources naturelles, c'est pareil pour beaucoup de choses.
Alors, quels sont les principaux axes autour desquels va tourner la réforme de l'aménagement ?
Alors, nous avons fait cette réforme, enfin, ce programme de réforme autour de trois axes. Le premier, il est juridique et réglementaire, c'est-à-dire mettre en place une politique d'aménagement du territoire qui soit concertée, discutée entre toutes les parties prenantes. Deuxièmement, un appui institutionnel et matériel au ministère chargé de l'aménagement du territoire. Alors ça se traduit par des embauches de spécialistes de l'aménagement du territoire, tout comme ça se matérialise aussi par de l'appui en matériel, ordinateur, etc. Et enfin, un appui technique, qui est celui de l'élaboration du schéma d'aménagement du territoire, de guides méthodologiques pour qu'il y ait une relation entre les actions sur le terrain et les impératifs d'aménagement du territoire, et puis un atlas pour savoir où se trouvent véritablement les ressources et comment les utiliser, et enfin un système d'information géographique qui fait évoluer le regard sur ce qui a été fait, sur ce qui reste à faire.
Dernière question, M. Taïeb, la RDC est un sous-continent au regard de ses dimensions. Est-ce qu'il existe des défis particuliers à relever dans cette réforme ?
Écoutez, le pays regorge de ressources naturelles, de ressources humaines, de ressources de toutes sortes. Il me semble que le pays peut et doit être le leader en Afrique centrale, en tout cas un des leaders en Afrique centrale. Et quels sont les défis ? Il y a un défi, d'abord c'est celui de la natalité. Il est difficile de continuer d'ici 50 ans ou 60 ans avec un taux de croissance de 2,8%. Ça nous ramènerait, semble-t-il, à une population de près de 170 millions d'habitants, ou peut-être même plus. Ça, c'est un gros défi à relever en matière de contrôle des naissances. Deuxièmement, il faudrait faire un recensement. Ça fait 32 ans qu'il n'y a pas eu de recensement. Il semble que la statistique, autant démographique qu'économique, est absolument nécessaire pour donner une idée sur les décisions qu'il faut prendre. Parce que sans données, on ne peut pas prendre des décisions. Troisièmement, il me semble qu'il y ait la nécessité d'une unité nationale. Il est difficile de faire de l'aménagement sans qu'il y ait la paix sociale, l'unité nationale et sans qu'il y ait un consensus autour du développement et autour de la distribution des richesses.
Monsieur Taïeb, merci.
Merci à vous.
Nous commençons cette page nouvelle par le Kasaï central. La section protection de l'enfant de la MONUSCO a documenté du 1er au 12 mai dernier 42 cas des violations des droits de l'enfant. La majorité de ces cas ont été perpétrés par la milice Tamina-Sapu. Dans cette région, les enfants sont souvent victimes des violations qui prennent diverses formes, à savoir le recrutement et l'utilisation d'enfants comme combattants par la milice lors des affrontements avec les FARDC. Et puis on quitte le Kasaï central pour Beni au Nord Kivu. La MONUSCO est sans étudiants de l'Institut supérieur de commerce et l'Université officielle de Semliki ont échangé le 10 mai dernier sur la résolution 2348 et les activités du bureau de la mission à Beni Butembo Lubero. Au cours de cette rencontre, les étudiants ont posé toutes leurs questions à la MONUSCO sur son mandat, mais aussi au porte-parole des FARDC en charge de l'opération Sokola 1 en Nord Kivu. À l'issue de cette matinée d'échange, les étudiants ont réitéré leur demande à la MONUSCO d'organiser d'autres activités d'échange, notamment sur les questions des droits de l'homme et de la promotion des droits des femmes. Enfin, santé dans le Haut-Lomami, l'épidémie de choléra déclarée dans le territoire de Bukama. Les plus grands nombres des cas ont été enregistrés entre le 7 et 12 mai, soit 118 cas. Pour l'instant, 18 patients sont donc au centre des traitements du choléra, sans soins, faute de médicaments. Les acteurs humanitaires impliqués dans la lutte contre cette épidémie ont besoin de quelques 500 000 dollars américains pour traiter les malades et pour la prévention, sans tout cas ce qu'a indiqué OCHA.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous le disions dans le sommaire, les réfugiés rwandais qui ne pourront pas être rapatriés au 31 décembre 2017 garderont leur statut de réfugiés en territoire congolais. C'est en tout cas ce qu'indique un expert du ACR dans un entretien accordé à Radio Clapy, Olivier Guillaume Baird, représentant régional assistant en charge de la protection, affirme aussi que depuis l'an 2000, un peu plus de 195 000 réfugiés rwandais en RDC ont été rapatriés, dont 1386 à cette année. Olivier Baird s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco.
Olivier Baird, bonjour.
Bonjour.
Au 31 décembre de cette année, selon la clause de cessation du statut de réfugié, le ACR, en accord avec les gouvernements congolais et rwandais, ils vont mettre fin au rapatriement des réfugiés rwandais. Comment alors le ACR prépare-t-il ces rapatriements par rapport à ces deadlines?
Je voudrais d'abord préciser qu'en octobre 2009, le ACR a annoncé une stratégie visant à mettre fin à la situation des réfugiés rwandais qui avaient fui leur pays avant le 31 décembre 1998. Et cette clause de cessation, elle est prévue dans la Convention de Genève de 1951, relative au statut des réfugiés, également dans la Convention de l'OUA. Le ACR l'a invoquée, ainsi que plusieurs pays de la région, mais la République démocratique du Congo n'a pas encore invoqué la clause de cessation. Cela veut dire que, contrairement à d'autres pays, après le 31 décembre 2017, les réfugiés rwandais en République démocratique du Congo seront toujours des réfugiés au sens de la Convention. Cela veut dire que, compte tenu du grand nombre de réfugiés rwandais en République démocratique du Congo, 245 000 selon les estimations du gouvernement, vous savez que c'est le plus grand nombre de réfugiés rwandais dans un pays, il y a de fortes chances que certains désireront encore se rapatrier au-delà du 31 décembre 2017. Et le HCR continuera de faciliter ce rapatriement qui est volontaire lorsque ces personnes se présenteront à nous.
Parlons maintenant de l'évaluation du rapatriement. Vous l'avez dit, 245 000 réfugiés rwandais en RDC, selon les recensements de 2014 de la Commission nationale pour les réfugiés qui représente bien sûr le gouvernement, dont 42 000 au sud Kivu. Alors, combien de réfugiés rwandais ont-ils été rapatriés à ce jour et combien il en reste, Olivier?
Juste une précision, les 245 000, c'est un enregistrement du gouvernement. Et par après, nous avons fait un enregistrement biométrique avec le gouvernement. Mais pour des raisons de sécurité, nous n'avons pu vérifier biométriquement.
Lorsque vous dites « nous », c'est les ACR, c'est ça?
Non, c'est le gouvernement qui enregistre les réfugiés en République démocratique du Congo avec le soutien du HCR. Compte tenu des problèmes d'accès à l'est de la RDC, les problèmes de sécurité, nos équipes ont été attaquées deux fois, nous avons dû suspendre cet enregistrement biométrique. Cet enregistrement biométrique a pu enregistrer 42 000 personnes. Donc les 42 000, ce n'est pas la population des réfugiés rwandais au sud Kivu, mais c'est plutôt les personnes qui ont pu être enregistrées biométriquement avec empreintes, photos, etc. Mais dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, ce n'est pas la population des réfugiés du sud Kivu, c'est le nombre de personnes enregistrées biométriquement. Alors, parmi tous ces réfugiés rwandais qui se trouvent en République démocratique du Congo, cette année, pour être précis, nous avons pu en rapatrier 1386 entre janvier et avril 2017. Mais le total, depuis qu'on a commencé à rapatrier des réfugiés rwandais vers le Rwanda, c'est-à-dire début de l'année 2000, nous en avons rapatrié avec le gouvernement 195 164.
Alors, quelles sont les conditions d'accueil de ces réfugiés rapatriés au Rwanda? Je veux parler de l'assistance, de la sécurité et même des infrastructures.
Eh bien, ces personnes qui sont rapatriées au Rwanda, d'abord, elles sont transportées par le HCR jusque de l'autre côté de la frontière. Et lorsqu'elles arrivent au Rwanda, elles sont hébergées dans des centres de transit. On vérifie d'abord qu'elles sont bien des Rwandais et qui étaient des réfugiés. Ensuite, ils reçoivent 250 dollars par adulte et 150 dollars par enfant. À quoi correspondent ces 250 dollars? Parce que ce n'est pas un chiffre qui a été mis comme ça par hasard. Ce chiffre-là correspond à toute une série de secteurs. Par exemple, une aide pour reconstruire une maison ou réhabiliter une maison qui était abîmée, un kit-abri. Ça comprend également un montant pour se couvrir en matière de santé, la mutuelle de santé qui coûte 10 dollars au Rwanda. C'est également pour acheter un peu de bois de chauffe. Comme ça, lorsqu'on revient, on peut commencer déjà à cuisiner pour les enfants, etc. Il y a le transport aussi jusqu'à sa commune d'origine. Cette somme représente une assistance monétaire qui couvre toute une série de secteurs qu'avant on donnait en nature, mais maintenant on donne en cash. Et ils reçoivent également 3 mois de rations de notre partenaire, le Programme Alimentaire Mondial.
Et la réintégration, c'est l'affaire du gouvernement.
Tout à fait.
Parlons de la clause de cessation. Qu'adviendrait-il au cas où certains réfugiés ne seraient pas rapatriés à la date du 31 décembre de cette année?
Donc, comme je l'ai dit, étant donné que la République démocratique du Congo n'a pas invoqué la clause de cessation, après le 31 décembre 2017, ces personnes seront toujours considérées par la République démocratique du Congo comme des réfugiés, et toutes les solutions durables qui s'offrent aux réfugiés peuvent s'ouvrir à eux. Ces solutions durables sont le rapatriement, celle dont nous parlons ce matin, mais également l'intégration dans le pays où ils ont choisi de vivre. Certains d'entre eux vont peut-être décider de ne pas retourner au Rwanda, peut-être qu'ils ont épousé des Congolaises, ils sont nés ici, et ces gens vont peut-être demander à rester en République démocratique du Congo.
Vous parlez tout à l'heure de l'intégration. Certains incidents enregistrés dans l'est du pays lors des enrôlements ont impliqué des sujets rwandais. Est-ce qu'il y avait aussi des réfugiés rwandais?
En théorie, un réfugié ne peut pas s'enrôler pour obtenir une carte d'électeur ou pour voter puisqu'il est un étranger. Les étrangers, selon la loi électorale congolaise, ne peuvent pas être enrôlés. Notre sensibilisation, tant du gouvernement, notre partenaire, la Commission nationale pour les réfugiés, que du HCR, est de dire aux réfugiés, vous n'avez pas à vous enrôler, vous n'êtes pas des citoyens congolais. Et ceux qui le feraient seront exposés à la loi congolaise, donc ils auront commis une infraction.
Donc le message est compris. Enfin, une question d'actualité, Olivier. Le HCR annonce un nouvel afflux d'au moins 2750 réfugiés centrafricains au nord de la RDC, c'est dans les Bas-Oulé et le nord Ubangi pour être précis. Alors, quelles sont les mesures envisagées pour la prise en charge de ces nouveaux réfugiés?
Oui, cette situation s'est produite récemment après une longue accalmie de l'autre côté des frontières de la RDC. C'est suite à la chute de Bangassou du côté centrafricain qui a provoqué ces arrivées dans le nord Ubangi et dans le Bas-Ouélé. En ce moment, le gouvernement, c'est-à-dire la Commission nationale pour les réfugiés, avec ses équipes sur place, a déjà recensé plus de 5600 réfugiés dans le Bas-Ouélé, ainsi que 750 dans le nord Ubangi à Yakoma, ce qui fait un total déjà de 6557 nouveaux arrivants au moment où on croyait que la situation se calmait. Nous avons envoyé des équipes sur place, des équipes multifonctionnelles qui comportent gouvernement, partenaires du HCR, ONG, ainsi que la Commission nationale pour les réfugiés pour faire une évaluation de la situation. Mais il faut savoir que c'est une région très isolée, une région très difficile d'accès. Nous sommes en saison des pluies, il n'y a pas de route, même les camions ne peuvent pas se rendre là-bas. Nous sommes forcés d'aller là-bas à moto. Et se pose maintenant la question, parce que ces personnes arrivent démunies de tout, il y a même des blessés, n'ont rien du tout sur eux, des fois même pas des habits. Comment venir en aide urgente aux besoins de ces populations qui viennent d'arriver? C'est un casse-tête que nous allons essayer de trouver une solution pour pouvoir amener une assistance humanitaire à ces personnes dans ces conditions très très difficiles.
Cette mission d'observation va durer longtemps pour qu'on puisse assister justement ces réfugiés, et ça va prendre le temps que ça va prendre, ou bien vous allez agir très rapidement?
La mission n'a pas besoin de revenir pour qu'on essaye de voir comment on peut agir. Cette mission nous fournit des informations, c'est comme ça que je peux vous dire qu'il y a par exemple 3150 personnes à Ndou, 753 à Kanwazi, 1104 à Kpété, etc. On connaît les chiffres, on connaît leur situation de ces personnes qui ont quitté tout sans aucun effet personnel. Le problème, c'est comment amener l'aide là-bas. Par avion, c'est beaucoup trop cher. Par camion, par voiture, c'est impossible. Donc on essaye de voir peut-être si on ne peut pas fournir une assistance en numéraire, en assistance financière. Nous sommes en train d'étudier la question avec le gouvernement, et lorsqu'il y aura une solution, nous ne manquerons pas de vous en faire.
Monsieur Baird, Radio Capi vous remercie.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, en campagne de sensibilisation sur le VIH-SIDA en Bandaka, dans la province de l'Équateur. Une campagne entreprise conjointement avec le Programme National de la Santé de l'Adolescent, PNSEA, avec comme cible les populations scolaires de la place. Chargé de promotion au PNSA Équateur, partenaire de l'UNICEF dans cette campagne, Agnon Elima explique le bien fondé de ce programme au micro de Paul Richard Malingela.
Nous parlons de la juvénilisation du VIH, parce que jadis, le sida attaquait beaucoup plus des adultes, mais aujourd'hui on voit qu'ils commencent à avoir la tendance d'attaquer les jeunes et adolescents. D'abord, on doit savoir que cet âge, c'est l'âge où tout le monde est sexuellement actif. Et le VIH a choisi le sexe pour passer comme la voie principale des contaminations. Donc, en dehors d'autres, l'activité sexuelle accrue dans cette tranche d'âge, il y a la pauvreté, il y a l'irresponsabilité des parents qui, des fois, déclinent les responsabilités et donnent les enfants le temps de faire n'importe quoi pour se prendre en charge. Il y a aussi l'ignorance qui entre en jeu. Il y a aussi des rumeurs et les us et coutumes. Des rumeurs qui disent que si tu restes vierge ou tu es chaste pendant une période donnée, tu peux tomber dans la stérilité, tu peux avoir des problèmes gynécologiques. Donc, c'est ce qui accentue la situation. Et puis, des solutions maintenant là, nous sommes en train de leur parler des moyens de prévention qui ne sont autres que l'abstinence, la bonne fidélité et le préservatif, mais aussi les dépistages volontaires.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Je vous propose à présent une question qui a été posée mercredi dernier au cours de la conférence de presse des Nations Unies. La question a été posée bien évidemment en porte-parole de la MONUSCO. Suivez sa réponse.
Saint-Germain et Bengo pour le camp des Congo à l'Elo. L'entrée de l'AFDEL à Kinshasa, dont nous célébrons à ce jour le 20e anniversaire, je veux dire le 20e retour à la même date. C'est justifié être, sauf information de votre part, la cause la plus lointaine de la présence de la MONUSCO ici en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut savoir les degrés d'observation onusienne de cette journée? Quel est votre degré d'observation de cette journée?
C'est une fête nationale. Donc nous, aux Nations Unies, vous voyez que tout en respectant cette fête nationale, nous avons des exigences professionnelles que nous continuons. C'est vrai que la présence ou la naissance ou le parcours de la FDL est lié, c'est vrai, à la présence des Nations Unies ici. C'est un fait, mais nous n'avons pas de commentaires à faire sur cette fête plus que ce que vous avez dit.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Donc bonjour, je m'appelle Tanaïssa Baer, je suis actuellement une étudiante à l'école européenne de communication à Bruxelles, donc effectivement c'est une école qui est spécialisée en communication. Pour le moment je suis une stagiaire chez Radio Okapi et je le suis depuis le 6 mars, donc en gros là je suis au web, avant j'étais aux news, mais pour le moment donc j'écris des brèves, on les met en ligne, parfois je mets aussi les journaux parlés en français en ligne et j'écris des petits papiers. Donc après le stage à Radio Okapi, j'aimerais éventuellement faire un master en digital marketing, soit ça ou prendre une année sabbatique et voyager, documenter mes expériences. J'aime beaucoup le montage, l'éditage des vidéos et donc j'aimerais bien m'approfondir à ce niveau-là. Donc pour l'avenir, bon, je ne sais pas. Pas exactement, je n'y ai pas pensé vraiment, mais ce qui est sûr, c'est que j'aimerais bien revenir en Afrique. Là, pour le moment, je dois retourner en Belgique, mais ce qui est sûr, c'est que je compte faire ma vie ici. Si ce n'est pas à Kinshasa, ce sera quelque part en Afrique, ça c'est sûr. Et là, pour mon temps libre, je lis, je regarde beaucoup de documentaires sur la politique américaine parce que ça m'intéresse, ça m'a toujours intéressé. Et là, comme il y a du beau temps, il fait chaud ici, je nage parce que j'ai pas vraiment l'opportunité à Bruxelles, donc j'en profite. Et en termes donc de musique, j'aime beaucoup, j'aime de tout, mais j'ai un petit penchant pour le hip-hop, le R&B, le jazz. Toutes sortes de variétés de musique africaine, j'aime tout. En tant que sport, comme j'ai dit tantôt, je nage. Bon, à part ça, je fais pas vraiment grand chose. Je danse, ça peut être quelque chose, voilà. Je mange beaucoup en termes de nourriture. Depuis que je suis ici, je mange beaucoup de pondou. C'est vraiment, j'adore. Mais sinon, à part ça, j'aime aussi beaucoup manger italien. Et donc, voilà. Donc voilà, pour le moment, voilà mon expérience à Kinshasa.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Voilà, prenez à présent vos carnets, notez ces rendez-vous de la semaine. Le 25 mai, nous vous rappelons que c'est la journée mondiale de l'Afrique et l'Union africaine ici au Congo organise certaines activités. Le même jour, le 25 mai donc, ce sera la journée des casques bleus. Le 28 mai, c'est la journée internationale d'action pour la santé des femmes. C'est la fin de ce magazine des Nations Unies. Merci de nous avoir suivis. Je suis Tina Salama. Le plaisir était le mien de vous le présenter. À la mise en onde, Bob Lindou. À la coordination et au reportage, Jean-Pierre Elali Coco. Au reportage également, Honoré Missengakalala. Sous la supervision de Martin Sebou-Jangoué. Merci, à très bientôt sur Radio Capi. Ciao.